Frère Hugues, merci à chacun d'entre vous. Je vous salue dans le bon saint nom du Seigneur Jésus-Christ, à mes visiteurs, frères et sœurs. C'est une joie pour moi d'être là, parmi vous. C'est aussi une double prérogative parce que ce matin, j'ai eu les candidats au baptême et je peux vous dire qu'on avance bien. Ils sont ponctuels, ils commencent à bien être ponctuels. Donc nous avançons bien et je vous demanderai de prier pour eux pour que le Seigneur puisse les transformer encore davantage. Mon épouse est en Guadeloupe, donc je ne vous dis pas que les corvées sont assez compliquées à la maison. Donc voilà, priez pour elle et que le Seigneur puisse la ramener à bon port. Avant de rentrer dans notre texte ce matin, j'aimerais en guise d'introduction, et cela très brièvement, examiner notre identification avec le Christ. Et nous avons eu quelques versets ce matin par rapport à la présidence qui nous a un peu éclairés et aiguillés. Vous savez, frères et sœurs, quelques passages du Nouveau Testament parlent de la présence et de la vie de Christ qui vit en nous. Et nous ne comprenons pas toujours très bien comment. Nous avons la foi pour bien des choses, le pardon des péchés, le salut de notre âme, la guérison de nos maladies, la fidélité de Dieu dans notre vie quotidienne, la certitude des promesses de la vie à venir. Et nous nous efforçons, bien sûr, de vivre pour lui pleinement, afin de lui plaire. Mais souvent, nous passons à côté d'un grand principe de la vie chrétienne qui consiste à nous identifier avec lui. L'apôtre Paul proclamait « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et, amen. Et ce verset contient le principe de base même de la véritable vie identitaire de notre communion avec le Seigneur. L'un des points clé de notre identification concerne la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ. C'est peut-être difficile pour vous ce matin ou certains d'entre vous à comprendre cela. Mais c'est d'abord un principe de foi, comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains. Écoutez. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Dieu le Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, et retenez bien ce terme, une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, très brièvement, le principe de base de notre identification avec Christ dans sa mort et dans sa vie. Nous considérons aussi souvent la crucifixion de Christ et sa résurrection comme uniquement en fonction d'une date dans l'histoire du monde. Et c'est la réalité. Mais il y a un aspect important, frères et sœurs, chers amis visiteurs, qui est enseigné dans le Nouveau Testament, c'est que celui de l'action puissante de Dieu dans nos vies, son action permanente, son action éternelle est donc actuelle. De la mort et la résurrection du Christ dans notre vie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce passage de l'Épître aux Romains, j'ai été surpris et Je n'ai pas réellement compris son importance dans ma vie pratique. Mais je peux vous assurer une chose, que depuis, il a pris tout son sens en moi. Toute sa signification, être mort avec le Christ et être rendu vivant avec lui. Mais je crains que pour beaucoup d'entre vous ce matin, ici présent, ce passage reste encore et malheureusement obscur. Et pourtant, c'est un principe vital pour que ceux qui croient en Christ puissent vivre pleinement. Paul dit, nous sommes morts. Il y a dans cette affirmation, frères et sœurs, une réalité spirituelle que nous devons accepter et appliquer. Si nous voulons surmonter nos difficultés dans notre combat contre notre nature charnelle, nous devons apprendre à mourir et à ressusciter en Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul. Mais vous, c'est ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Vous savez, j'aime particulièrement l'apôtre Paul. Parce que lorsque je lis l'apôtre Paul, j'ai l'impression qu'il me fait visiter la Bible en 3D. Il me tient par la main et il me fait visiter. Tellement que je m'imprègne un peu de ses enseignements. Car il nous fait rentrer dans la réalité de la sanctification. Non seulement par la pratique d'une discipline religieuse, mais par le moyen de la communication, de l'union avec Christ par le Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas seuls à nous débattre avec nos problèmes, mais il nous fait rentrer dans notre vie l'action déterminante même et victorieuse de l'Esprit de Dieu. Il nous faut donc apprendre, frères et sœurs, à laisser l'Esprit Saint accomplir son œuvre en nous. Et cela commence par une décision et un comportement de foi. Oui, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Et le juste aussi vivra par la foi. Et dans le fait de mourir et de vivre avec Christ, le premier pas est un pas de foi. Et donc il y a une réalité spirituelle qu'il nous faut reconnaître et accepter par la foi. C'est qu'en décidant, frères et sœurs, volontairement de devenir enfants de Dieu, nous entrons dans une autre façon de vivre, une autre façon de marcher, ce qui est le résultat de notre communion avec lui. Et vous savez, le terme de la communion avec Jésus est un des sujets importants de la vie chrétienne. Et lorsque nous aurons compris cela, lorsque certains d'entre nous auront compris cela et surtout mis en application notre union avec le Seigneur, nous entrerons plus facilement dans la réalité de notre identification en lui. Et c'est dans cette pensée de l'identification avec Christ que j'aimerais vous conduire ce matin. Devenir une même plante avec lui. Qui signifie en quelque sorte être uni à lui. Car la communion avec le Seigneur est le moyen par lequel tout ce qui est en lui nous est communiqué, de même que les sarments reçoivent la vie du cep auquel il est uni. Et oui, vous l'avez bien compris, ce matin je vous parlerai du cep et des sarments. Le cep et les sarments, oui, cette parabole nous donne toute l'explication de l'enseignement pratique sous la façon dont nous sommes appelés à être unis avec Christ, à vivre de sa vie, à demeurer en lui. Prenez avec moi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Alors ce matin, je ne vous donne pas un titre, mais vous allez peut-être en trouver un titre. Soit le cep et les sarments, soit devenir une même plante avec lui, ou notre union avec le Christ. Nous lisons, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. La réalité spirituelle de notre conversion et notre foi en Christ, c'est notre union spirituelle avec lui. L'image est tellement profonde ici, tellement profonde et forte, que nous sommes greffés en lui, dans une identité commune, un avec lui comme lui est un avec le Père. Cette lecture attentive de Jean 15, de l'évangile de Jean, au chapitre 15, a donné lieu à moi personnellement plusieurs réflexions qui s'articulent autour de trois pensées fortes se dégageant dans ce texte. On dit que l'apôtre Paul est l'apôtre de l'amour. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais personnellement, en examinant le texte de plus près, je dirais qu'il est l'apôtre de la communion. C'est-à-dire de l'union intime avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et à partir de là, la communion entre ceux qui sont nés de Dieu. Jean était le disciple qui semble avoir eu la plus grande intimité avec le Seigneur. Et pour lui, l'amour ne se résume pas en de beaux discours, mais se vit dans la pratique d'une relation véritable et constante. Voilà, frères et sœurs, ce qui motive en quelque sorte ce matin ma réflexion. Et comme j'ai appris le mercredi soir, que lorsque je prends un texte de l'Ancien Nouveau Testament, je dois trouver un autre texte dans l'Ancien Testament pour l'accompagner. Alors je vous invite à ouvrir aussi vos Bibles avec moi en Ésaïe, Ésaïe chapitre 27, versets 2 à 6. Ésaïe chapitre 27, versets 2 à 6. Il nous est dit, en ce jour-là, chantez un cantique sous la vigne. L'Église, frères et sœurs, est la vigne de l'Éternel. Ce n'est pas la vigne d'Aldo, ni de Jocelyn, ni de Hugues, ni de Alex, ni de Roland. C'est la vigne de l'Éternel. En ce jour-là, chantez un cantique sous la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. C'est fort. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Quels sont nos fruits ce matin? Dieu est plein de sollicitude. Dieu est plein d'attitude, d'attention et de bonté à l'égard de son peuple. Mais si malgré l'amour que lui porte son Seigneur, le peuple se détourne de lui pour s'attacher à des choses mauvaises, alors l'Éternel intervient par ses jugements. Et il en est de même aussi pour nous. Lorsque nous avons goûté au Seigneur et lorsque nous nous retournons et que nous touchons à des mauvaises choses, le Seigneur, dans son amour, il exerce sa justice envers chacun d'entre nous. Et en lisant le passage de Jean 15, des versets 1 à 8, nous voyons que Jésus va reprendre le même principe qu'Ésaïe, afin d'illustrer la relation de Dieu avec son peuple de la nouvelle alliance, l'Église que nous sommes. Je vais m'efforcer ce matin, en m'appuyant sur les paroles de Jésus, d'appliquer l'illustration du cèpe et des sarments à deux catégories de personnes. À nous-mêmes, bien sûr, nous, chacun en particulier, donc les sarments, et puis aux églises locales, assemblées autour de leur Sauveur Jésus-Christ qui marche au milieu d'elles, dont nous sommes ce matin. Ma première pensée ira sur les fruits. Porter du fruit. Jean 15, 16 nous dit: je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Portez-vous du fruit. Si vous n'en portez pas, vous n'êtes pas disciple de Christ. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce n'est pas par hasard que cette parabole se trouve intercalée entre le chapitre 14 et le chapitre 16. Ce que je veux vous dire, vous faire comprendre, c'est que ces trois chapitres, 14, 15, 16, font partie d'un même discours du Seigneur. Ils sont indissociables. Jésus y annonce la venue et la mission du Saint-Esprit dans l'Église et avec ses églises dans le monde. Et à la fin du chapitre 15, regardez les versets 26-27. Il nous révèle et nous mentionne une raison importante de la venue du Saint-Esprit: rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ et le glorifier. Regardez, verset: quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Dès maintenant, nous pouvons affirmer, frères et sœurs, que nous sommes appelés à porter du fruit, à porter un fruit qui glorifie le Père et son Fils Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit nous est donné dans ce but. Frères et sœurs, chers amis, visiteurs, ce n'est pas une utopie, ni une possibilité, ni une option. C'est un ordre que le Seigneur nous donne et nous fait. Porter du fruit. Jésus envoie ses disciples dans le monde pour témoigner de lui. Et il sait que cette mission ne sera possible que dans deux conditions. La première, que ceux-ci, les disciples, nous, demeurent attachés à lui. Que les sarments soient attachés au cèpe, mais aussi qu'ils dépendent de lui et demeurent en lui. La deuxième, que le Saint-Esprit demeure en eux et y fasse son œuvre. Et les instructions du Seigneur à ce sujet sont très importantes, car elles concernent la raison d'être des églises dans le monde. L'apôtre Pierre nous en dit deux mots: c'est pour montrer la gloire de Dieu, pour ramener les perdus à l'obéissance de la foi. Comment ? Évangélisation. Par qui ? Les évangélistes, ceux qui prêchent, qui annoncent Christ, Ces personnes peuvent être des prédicateurs confirmés ou de simples disciples de Jésus-Christ. Actes nous en parle, Actes chapitre 8. Leurs méthodes peuvent varier, mais le but reste le même. Annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour amener ceux qui entendent à croire à Jésus-Christ. Deuxième, l'église dans la ville. Sommes-nous une église dans la ville? Je ne parle pas d'édifices, je ne parle pas des temples, des chapelles, des immeubles, des lieux de rencontre, mais des hommes et des femmes qui, après avoir cru au Seigneur Jésus, sont devenus des disciples, le suivant fidèlement en demeurant attachés à lui et à ses commandements. Car je vous le rappelle, ses commandements ne sont pas pénibles. Ce sont ces personnes qui, par leur conduite, vont devenir au milieu de ceux parmi lesquels ils vivent la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but est toujours le même, qu'ils glorifient Dieu. Nos temples, nos bâtiments et nos édifices religieux sont bien utiles pour rassembler les gens pour la prière, l'enseignement, la parole de Dieu. Mais par eux-mêmes, ils n'ont jamais converti personne. Jamais entendu quelqu'un passer à côté du temple et dire « Voilà, j'ai vu l'église, je me suis converti. » Non, il faut qu'ils y entrent. Et pour qu'ils puissent rentrer, il faut que nous puissions aller évangéliser. Ce qui peut toucher les cœurs et les disposer favorablement à recevoir la parole de Dieu, c'est l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je parle aux jeunes, moins jeunes. Ayez au milieu des païens. Quelle conduite avons-nous au lycée, au collège, dans le milieu du travail? Quelles sont nos fréquentations? Est-ce que ce sont les gens du monde qui nous contaminent? Ou est-ce que c'est nous qui devrions les contaminer par la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Les fréquentations amoureuses entre garçons et filles? Nous y reviendrons. Lorsque les gens remarquent le fruit de notre attachement à Jésus-Christ, lorsqu'ils remarquent que c'est bon, que c'est désirable, eh bien, ils seront mieux disposés à recevoir la parole de Dieu et surtout à se confier en lui. Car le fruit que nous porterons sera le résultat de notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la sainteté, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, le souci des âmes perdues. Et c'est de cela que le Seigneur Jésus parle dans son discours de Jean 15. Sa nature produite en nous, ça par le Saint-Esprit. C'est cette nature de Jésus-Christ qui doit être produite en nous pour que les gens du monde puissent être contaminés à notre approche et pour qu'ils puissent eux aussi trouver que le Seigneur est bon. C'est à cela que nous sommes appelés, et cela jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et pour cela, frères et sœurs, il nous faut diminuer pour qu'il puisse croître. Il nous faut diminuer pour qu'il puisse croître. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul a su diminuer pour que Dieu puisse croître dans sa vie. Ma deuxième pensée va sur le fait de comment porter du fruit. Et si nous revenons à notre texte, en Jean 15, les versets 1 à 5, Et nous voyons que notre vie entière dépend de Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en effet, dans son enseignement, le Seigneur nous explique quelles sont les conditions à remplir pour atteindre l'objectif qu'il nous fixe, porter du fruit et glorifier Dieu. Et par cette parabole, il nous fait comprendre la nature même de notre relation avec lui, en nous enseignant que la qualité et l'efficacité de notre vie d'enfant de Dieu, ainsi que l'exaucement de nos prières dépendent de la qualité même de cette relation. Le sarment. Le sarment est par nature attaché, uni au cèpe, dont il dépend de notre Seigneur. Utilise cette image pour préciser la nature de notre relation avec lui. Une véritable union en Christ. La qualité de notre vie chrétienne dépend de notre union avec Jésus-Christ, le cèpe de Dieu, car étant dépendant de Christ, nous ne pouvons pas porter du fruit sans lui. Vous ne pouvez rien faire sans Christ. Je n'ai jamais pu faire quelque chose sans Christ. Et chaque fois que j'ai fait quelque chose sans Christ, ça a été quelque chose de 2 jours, de 3 jours, quelque chose d'éphémère. Jamais quelque chose de durable. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Vous savez, les sarments, je suis le cep et nous sommes les sarments. Et lorsque nous sommes unis, nous sommes en communion avec le Christ, il y a cette sève qui passe du cep pour aller jusqu'au sarment. Et lorsque le sarment y produit son fruit qui glorifie le Seigneur, ça fait un circuit. Le Seigneur est glorifié. La sève, le Seigneur nous donne, on reçoit, on produit, on fait notre fruit. Et au moment retour, le Seigneur est glorifié. Et ensuite, il nous déverse encore d'autres choses. C'est comme le circuit sanguin. Vous savez, lorsqu'on fait un anévrisme ou quelque chose éclate, bon, on fait là-haut, bon, on fait au cerveau, la communication, elle est coupée. Le sang ne monte plus. À un moment donné, il peut plus faire son travail. Bien, il en est de même pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes là, assis dans l'église et nous ne produisons pas de fruits. Oui, nous sommes assis et nous nous laissons vivre. Mais le Seigneur n'est pas glorifié. Et puis, le péché dans notre vie empêche le retour. Nous recevons, oui, le Seigneur est amour, nous recevons la sève, mais nous ne faisons rien avec. Cette sève, cette dynamisme, cette énergie, cette force, cette puissance que le Seigneur déverse en nous chaque jour, que faisons-nous avec tout ça? Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons une même plante avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes greffés en lui. C'est une œuvre spirituelle. C'est ce que je comprends par rapport à ce passage de l'Épître aux Romains au chapitre 6. Prenez ce passage avec moi, Romains chapitre 6, les versets 4 et 5. Romains chapitre 6, versets 4 et 5. Nous irons peut-être un peu plus loin. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Tout ce que nous étions, frères et sœurs, tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré, car nous sommes devenus un seul et même être avec lui, une même plante en Christ. Nous lui avons été incorporés, greffés. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous devons porter du fruit pour que le Seigneur soit glorifié et aller vers les âmes perdues. Et si donc Nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui. Nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comme le sarment est naturellement uni au cep dont il fait partie, nous sommes spirituellement unis à Christ afin de vivre de lui et de sa vie. C'est l'œuvre de Dieu en réponse à notre foi en Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et la parole, Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'union du sarment et du cep est naturelle. Elle ne dépend pas du sarment, mais en ce qui nous concerne, notre communion avec Christ dépend en partie de nous. Nous avons à nous attacher à lui. Nous devons faire un effort. Nous devons nous demeurer en lui. Selon l'instruction du Seigneur, demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Il y a donc au départ une décision de notre part en réponse de l'appel de Christ. Nous devons vouloir porter du fruit. Il y a des personnes qui se contentent d'être sauvées. Leur objectif ne se limite qu'au salut de leur âme. Et c'est déjà une bonne chose. Mais l'Évangile ne nous propose pas seulement une assurance tout risque pour la vie éternelle. Les enseignements du Seigneur sont clairs là-dessus. Vivre une vie qui l'honore et glorifie notre Père céleste. Lui rendre témoignage. Avoir le souci des âmes et faire des disciples. Servir Dieu et attendre le retour du Seigneur. Ah, formidable. L'objectif de Dieu pour nous, frères et sœurs, pour vous et moi, pour ceux qui ont cru en son Fils, c'est qu'ils portent beaucoup de fruits et qu'ils en portent encore plus de fruits. Et non en restant assis, en se disant « ça y est, je suis sauvé ». Ça y est, je fais déjà quelque chose dans l'église. Je ne peux plus faire d'autres choses. Je laisse pour les autres. Donc, frères et sœurs, la volonté de Dieu pour ses enfants, pour nous, que nous sommes ce matin, la pensée de Christ pour ses rachetés et le désir de l'Esprit, c'est la situation normale d'un disciple. Et là encore, quatre enseignements pratiques attirent mon attention pour être un disciple accompli. Son appartenance, ben oui. Comme le sarment appartient au cep, les rachetés de l'agneau lui appartiennent. Ce n'est pas systématique, mais cela demande notre accord, une décision personnelle. Donnez-vous vous-même à Dieu, nous parle Romains chapitre 6, verset 13. Sa dépendance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous dépendons du Seigneur? Ou est-ce que nous dépendons de nos propres forces? Eh oui, nos seules forces ne sont pas suffisantes. Moi, je l'ai examiné, je l'ai expérimenté dans ma vie. Nous devons compter sur Christ, nous appuyer sur lui, nous confier en lui, rechercher la force en lui, car la nôtre, notre force n'est que faiblesse. Le Seigneur seul peut nous communiquer la force dont nous avons besoin. Et quatrièmement, sa présence. Oui, est-ce que Dieu est présent en nous? Je discutais tout à l'heure avec les futurs baptisés et je leur disais des fois quand je suis dans ma voiture, je suis émerveillé de savoir que le Seigneur est à côté de moi. Vous allez dire, c'est banal, oui d'accord, mais il est là. C'est beau, c'est magnifique. Je suis jamais tout seul. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Paul affirme, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ est en nous, par son esprit, il vient demeurer en moi, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mon vouloir. Et par sa parole habitant abondamment en moi, Jésus m'éclaire. Ah, c'était le troisièmement, quatrièmement alors, son attachement. Êtes-vous attaché au Seigneur? Êtes-vous attaché au Seigneur? Car le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il y a donc un lien intime et personnel entre le cep et chacun des sarments qu'il porte. Jésus précise que ce lien est un lien réciproque. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons habiter en lui. Jean 14, 23. Il y a dans l'amour deux éléments qui dépendent l'un de l'autre. Un lien affectif, il nous aime, nous l'aimons. Et puis un choix personnel, nous voulons, est-ce que nous voulons? J'ai traduit en quelque sorte l'attachement par la fidélité. Cela donne plus une dimension, je dirais, d'exclusivité et surtout une durée dans le temps. Parce que le Seigneur est toujours fidèle. Nous, nous sommes fidèles, mais le Seigneur est toujours fidèle. Demeurez attachés au Seigneur chaque jour. Enfin, nous pouvons définir ces quatre éléments, l'appartenance, la dépendance, sa présence et l'attachement par un seul mot, la communion, être uni à Christ, un avec lui. Il dit de sa situation avec le Père, « Moi et le Père, nous sommes un. » Cela signifie même pensée, même sentiment, même volonté, même but, même projet. Lui en nous et nous en lui. Une même âme, un même cœur, une même vie, une même plante. Selon Jean 16, nous découvrons que le Père veut que tout ce qui vient de lui nous soit communiqué par son Fils. Tout ce qui vient de lui nous soit communiqué par son Fils. Oui, tout ce qui nous vient du Père nous est donné par son Fils Jésus-Christ, et ce qui est à Jésus nous est donné par le Saint-Esprit. Écoutez, quand le Consolateur sera venu, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Frères et sœurs, nous devons savoir que tout le fruit d'une vie de disciple de Christ ne peut être que le résultat de notre communion personnelle avec le Seigneur lui-même. Et sachez que si nous nous détachons du cep, nous sommes voués à la destruction. Nous nous mettons en danger, nous nous mettons en dehors de sa communion, nous nous mettons... Il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et là, nous serons dévorés. Et alors... Et je ne voudrais pas que ça arrive à qui que ce soit d'entre nous, chrétiens. Nous devenons des sarments coupés, séparés du cep, qui se dessèchent et que l'on brûle. Frères et sœurs, puisque jamais cela ne puisse nous arriver dans notre vie de chrétien. Et si l'occasion m'est donnée encore, Dieu voulant, dimanche prochain, je reviendrai sur les sarments qui sont coupés. Pourquoi Dieu nous émonde? Pourquoi le Seigneur est obligé de tailler, émonder? Et quelquefois, ça fait mal. Ah, je peux vous le dire, ça fait très très mal. On ne sait plus où on vit. Mais seulement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'union constante avec Christ, le cep de vigne, est essentiel pour porter du fruit, produire la nature de celui, Christ, à qui nous sommes attachés et unis. Le Père interviendra alors pour émonder, couper tout ce qui va nuire au développement de ce fruit. La semaine prochaine, nous allons voir lequel d'entre nous, ou lesquels d'entre nous, qui nuit à la progression de la vigne du Seigneur. Parce que je vais vous démontrer qu'on sera coupé, émondé, taillé. Et quelquefois, nous allons souffrir. Voilà ma réflexion ce matin. Voilà ce à quoi j'ai voulu m'entretenir avec vous. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous dirige et vous fortifie. Et surtout, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.